Merci Marc d'abord pour l'invitation et ensuite pour cette introduction. Et donc, en fait, comme Marc l'a dit, donc, une des originalités de l'approche que nous menons dans mon groupe, c'est de mêler étroitement donc, des concepts et des méthodes qui viennent de la physique moléculaire, la spectroscopie, avec les approches de la chimie et les approches de la biologie. Alors, par contre, au risque de te décevoir, je ne montrerai qu'un seul spectre Mössbauer, en dépit du fait que ce soit une activité très importante dans le groupe. Et en plus, ce spectre Mössbauer, ce n'est pas nous qui l'avons enregistré. Mais vous, ceux qui sont assidus à ces séminaires, enfin aux cours et aux séminaires, ont eu la chance, mardi dernier, de voir un spectre Mössbauer qui a été enregistré dans mon équipe, ce qui a été présenté par Sandrine Ollagnier. Donc alors, j'ai choisi de parler aujourd'hui d'une problématique donc, qui est donc, très très liée au final avec ce dont Marc a parlé. Peut-être aurions-nous dû nous concerter davantage, mais au final peut-être pas, puisque je vais dans l'exposé avoir une partie qui est peut-être un petit peu redondante, puisque quand on parle de fer et de manganèse, comment ne pas parler de ribonucléotide réductase ? Mais l'approche que j'ai choisie est différente, et donc je pense que ça peut être au contraire complémentaire. Alors pourquoi s'intéresser à ce problème? Et je pense que ça aussi c'est intéressant puisque cela montre que nous avons une appréciation convergente des choses importantes qui se sont déroulées dans le domaine des métaux en biologie ces dernières années. Et le cas que je voudrais aborder, c'est justement la question de est-ce qu'on peut faire la même chose, est-ce qu'une protéine peut faire la même chose avec du fer ou avec du manganèse? On va voir dans quel cadre ce serait possible. Et au final, quelles sont les raisons qui pousseraient donc une cellule à changer de métal? Et ça, bon, Marc a déjà abordé ce sujet. Alors pourquoi ces questions sont-elles actuelles? Eh bien parce que ce domaine des métaux en biologie a connu ces dernières années des avancées très importantes dans deux domaines particuliers, qui est donc le premier, c'est l'homéostasie métallique. Donc on a commencé à comprendre comment une cellule donc, va chercher un métal et ensuite gère sa concentration. Et le deuxième, c'est effectivement aussi la biosynthèse des cofacteurs plurimétalliques, donc les sans fer soufre, donc la biosynthèse donc, à laquelle Marc a contribué donc, par le système SUF, et puis les systèmes donc, à deux fers dont Marc vient de parler. Alors pour aborder ces questions, bon, on va y arriver. Voilà. J'ai structuré l'exposé en cinq parties. Donc d'abord, je vais essayer de situer le problème en termes de chimie et de chimie des métaux, chimie inorganique. Ensuite, je donnerai quelques exemples, ou des exemples qui marchent, où des enzymes peuvent fonctionner indifféremment, avec quelques ajustements, avec du fer ou du manganèse. Je développerai dans une troisième partie une chimie que nous avons développée dans le groupe, une chimie, qui va illustrer certains aspects. Donc, je vais aller chercher dans ce que nous avons fait ces dernières années quelques résultats qui vont illustrer cette dualité fer-manganèse. Ensuite, j'aborderai trois controverses et les leçons des erreurs. Alors, il ne s'agit pas de montrer du doigt les mauvais élèves de la classe, hein, ce n'est pas cela. C'est d'essayer de comprendre comment certains scientifiques, tout à fait bien par ailleurs, ont pu se tromper. Mais Marc a déjà abordé cette chose, parce que c'est là que je parlerai de la ribonucléotide réductase. Et ensuite, j'essaierai de conclure et de tirer quelques leçons et proposer des pistes. Bon. Ah. Ça ne marche pas bien. Bon, alors comme tout chimiste, moi je commence habituellement avec la classification de Mendeleïev. Alors des classifications de Mendeleïev, donc, il y en a de différentes sortes, qui mettent différents aspects en perspective, et celle que j'ai choisie ici, c'est celle qui a été publiée dans une revue récente et qui présente le tableau de Mendeleïev sous une perspective cellulaire. Donc les éléments qui sont donc, dans des carrés noirs, ce sont les éléments qui sont absolument essentiels à toutes les cellules. Dans des carrés gris, là où on trouve le zinc, le magnésium, on a des éléments qui aussi, bon, bien que moins importants en quantité, sont essentiels. Et puis vient la première ligne des éléments de transition, où l'on rencontre manganèse, fer, cobalt, cuivre. Là aussi, ce sont des éléments en encore moins grande concentration, mais qui sont très importants, essentiels à... Alors, je ne vais pas dire toutes les cellules, mais beaucoup. En effet, il y a quelques organismes qui ne dépendent pas du fer. Oui, ce sont des exceptions, mais ils existent et on le mentionnera en partie. Donc, comme vous le voyez dans cette classification périodique, mais c'est le cas dans toutes, le manganèse et le fer donc, sont des éléments qui sont très voisins. Donc, on va essayer d'approfondir un petit peu leur similitude et leur différence. Donc, dans la première colonne ici, les propriétés du fer, du manganèse, dans la dernière, celles du fer. Et puis, j'ai considéré un certain nombre de propriétés. Alors, ces deux métaux existent dans la nature dans deux degrés d'oxydation stable, qui sont plus 2 et plus 3. Ici sont les rayons ioniques donc, des états réduits, vous voyez qu'ils sont voisins. Les rayons ioniques des états oxydés, ils sont aussi voisins. Donc, déjà, cela peut, on va voir tout de suite que les acidités des deux métaux vont être comparables dans les deux états redox, et ceci se voit ici. Donc, quand on regarde le pKa donc, d'une molécule d'eau coordonnée à un métal au degré d'oxydation 2, donc c'est pour la déprotonation de cette molécule d'eau, on voit que ce pKa est de l'ordre de 10 dans les deux cas. Lorsque l'on a affaire aux états oxydés, ben, ce pKa a été beaucoup diminué, mais là encore, on est dans des valeurs qui sont assez similaires. Un paramètre très intéressant, c'est la vitesse d'échange des molécules d'eau dans la sphère donc, de coordination du métal. Ça, c'est très important pour la catalyse, pour que les substrats puissent interagir rapidement. Il y a une différence d'un facteur 5, mais on est dans le même ordre de grandeur, donc dans le 10 puissance 6. Donc voilà pour les similitudes. Maintenant arrivent les différences. Et les différences, elles sont liées à la structure électronique des ions. Dans le cas du manganèse 2, donc, l'ion a une structure de 3D5 avec une couche D donc, à moitié remplie. Et ça, c'est une structure qui est très stable. Donc, lorsque l'on va oxyder le manganèse, on va créer une structure 3D4 qui est beaucoup moins stable, et donc il va falloir donc, dépenser de l'énergie. Quand on s'intéresse au cas du fer, la situation est totalement différente. En effet, le fer 2 a une structure 3D6, et en l'oxydant, on va obtenir la structure 3D5 qui est stable, donc ça coûtera moins d'énergie. Et donc ceci se reflète par une différence de 700 millivolts, 750 millivolts, entre les deux potentiels redox, donc métal 2, métal 3, quand ils sont complexés par 6 molécules d'eau. Donc venons-en maintenant aux enzymes qui peuvent fonctionner indifféremment, donc avec du fer et du manganèse, et donc j'en ai sélectionné 3, et on va essayer de comprendre pourquoi elles peuvent faire donc indifféremment affaire, si je puis dire, avec le manganèse ou le fer. Donc les premières de ces enzymes sont les phosphatases acides pourpres, qui appartiennent à une très grande classe, les hydrolases à site actif binucléaire, qui sont actives dans l'hydrolyse de nombreuses liaisons, en particulier beaucoup d'esters de phosphate. Si donc, ces enzymes utilisent une très très grande variété de métaux, donc, selon l'origine, donc, selon la fonction et selon l'origine du substrat et de l'organisme. Donc si l'on se concentre sur les phosphatases acides pourpres, il y a 3 formes qui ont été décrites, qui fonctionne donc toujours avec un fer ferrique auquel est associé un métal au degré d'oxydation 2 qui peut être un fer, un zinc ou un manganèse. Donc ces enzymes donc, ont des fonctions diverses, donc qui ne sont pas forcément d'ailleurs toutes parfaitement connues encore. Et si l'on s'intéresse donc à leur répartition, on les trouve dans des plantes, dans des animaux ou dans des bactéries. Mais toutes ont les mêmes acides aminés qui complexent les métaux au site actif. Et donc cela comprend 3 histidines, une asparagine, 2 aspartates et une tyrosine. Donc, pourquoi les appelle-t-on des phosphatases acides pourpres ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont une activité phosphatase qui est maximale à pH acide. Et pourquoi sont-elles pourpres ? Eh bien, parce que cette couleur est due à une transition donc électronique entre la tyrosinate et le fer 3. Donc, hydrolyse de phosphoester, comment est-ce que ça marche ? Donc, en fait, le mécanisme est encore une matière de controverse et de débat très actif. Il y a 2 hypothèses principales. La première qui est donc résumée ici, donc sur une espèce active qui a été proposée pour une phosphatase acide pourpre de plante, celle du haricot rouge. C'est une enzyme à fer-zinc, mais la nature du zinc n'a pas... Que ce soit zinc ou un autre métal, ça ne change pas grand-chose, les activités sont extrêmement voisines. Donc ce qui est proposé, c'est que dans la forme active, le deuxième métal est complexé par une molécule d'eau, alors que le fer, lui, est complexé par un hydroxyde. Donc le phosphate arrive, donc remplace la molécule d'eau ici, et le phosphore se trouve positionné de façon extrêmement efficace pour être attaqué par l'hydroxyde comme nucléophile. Donc c'est une proposition tout à fait raisonnable. Mais cette proposition a été donc un petit peu controversé, et en particulier à partir de la structure d'une enzyme d'une autre forme, donc une autre phosphatase acide douce, pourpre, donc d'une autre plante, mais elle vient de la patate douce, celle-ci, et c'est une enzyme donc, qui possède un fer et un manganèse, donc voici sa structure. Alors, c'est un peu dommage qu'elle soit donc, en opposition par rapport à la précédente, mais ça ne change rien pour ce que je vais dire. Donc, cette enzyme a été donc, cristallisée avec un anion phosphate qui est lié donc, aux deux métaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux oxygènes qui sont liés de façon terminale, mais il y en a un qui est pontant entre les deux métaux. Et ceci peut permettre de rappeler un état de transition potentiel. Et donc, ceci a permis de suggérer que le nucléophile qui était actif dans l'hydrolyse ne pouvait ne pas être l'hydroxo terminal lié au fer, mais l'hydroxo pontant. C'est une question qui n'est pas encore résolue, il n'est même pas certain qu'il y ait un mécanisme unique, mais de toute façon, l'activité est très similaire à quel que soit le deuxième métal, et donc cela implique la liaison du phosphate ici, et ensuite donc, sa conversion. Donc, pour les réactions d'hydrolyse, on peut avoir un fer ou un zinc ou un manganèse, et on a des réactivités qui sont extrêmement similaires. Bon, venons-en maintenant à un autre exemple, qui est un exemple d'enzyme qui catalyse une réaction redox. Alors, ces enzymes, ce sont les estradiols catéchols dioxygénases, qui donc catalysent le clivage de ce catéchol, donc dans la liaison carbone-carbone qui se trouve en ortho de ce groupe hydroxyle. Donc, les premières de ces enzymes qui ont été découvertes étaient des enzymes à fer, mais très récemment, donc, on a trouvé des enzymes qui fonctionnent avec du manganèse. Alors, la structure donc, qui est représentée ici montre le site actif. Donc, le métal est complexé donc, par deux histidines et un carboxylate, et la sphère de coordination est complétée par trois molécules d'eau. Donc c'est dans le cas c'est une enzyme à manganèse. Bon, sur la figure de droite est représentée la superposition des structures de la forme à manganèse et de la forme à fer, et comme on peut le voir, il n'y a pratiquement pas de différence structurelle. Donc considérons maintenant les activités. Alors ce qui est comparé dans ce tableau, ce sont les activités de l'homoprotocatéchate dioxygénase, enzyme à fer, et de la forme substituée au manganèse. Et donc ensuite, l'enzyme équivalente donc, qui fonctionne avec du manganèse et sa forme substituée au fer. Donc si l'on se focalise sur la constante catalytique ici, on s'aperçoit que ces constantes varient très peu, quel que soit le métal, et donc la nature du métal, manganèse ou fer, n'a pratiquement aucune influence sur la réactivité. Pourquoi ? Bien, l'explication est fournie par ce cycle catalytique, dans lequel on voit l'enzyme donc, dans son état de repos, complexé par les deux histidines et le glutamate, plus deux molécules d'eau et un résidu hydroxyle. Lorsque le substrat arrive, en fait, les trois molécules donc, qui dérivent de l'eau sont remplacées, sont chassées, et le substrat se fixe de façon monodéprotonée, donc un phénolate, donc la deuxième fonction n'étant pas déprotonée. Par là même se trouve un site de coordination vacant qui peut être donc arrivé en interaction avec une molécule de dioxygène. Donc la forme qui résulte de cette interaction est en fait un complexe dans lequel l'oxygène est lié de façon sous une forme superoxyde, donc réduite à un électron, mais le métal n'a pas changé de degré d'oxydation, et c'est le substrat qui a été oxydé à un électron sous forme semi-quinone. Cette espèce évolue ensuite sous une forme peroxydique avec le transfert du deuxième électron, donc ici c'est un aryl peroxo, dont ensuite va se réarranger par coupure de la liaison oxygène-oxygène et insertion de cet atome d'oxygène dans la liaison carbone-carbone adjacente pour donner cette espèce. Et ensuite cette espèce va évoluer avec cassure, enfin, hydrolyse de la liaison et donc formation de l'acide aldéhyde. Donc ce qui est remarquable dans ce schéma réactionnel, c'est que le métal ne change pas de degré d'oxydation. En fait, le métal n'a pas un rôle redox, il a un rôle structural, donc le rôle d'un gabarit qui va amener les deux partenaires de la réaction redox à proximité pour que le transfert d'électrons puisse se produire. Et on comprend donc que de ce fait-là, la réactivité soit très peu sensible au fait que ce soit un manganèse ou un fer, puisqu'il ne s'agit pas d'une réaction redox. Troisième exemple. Bon, ça, c'est un exemple. Enfin, ce sont des enzymes qui sont extrêmement connues, extrêmement importantes, les superoxydes dismutases, qui sont les premières lignes de défense, donc dans un stress oxydant où l'oxygène est réduit en superoxyde. Donc, on sait qu'il en existe quatre sortes, donc AFER, en manganèse, celles qu'on va discuter, qui sont très, très proches. Mais il existe aussi une forme à cuivre-zinc et la dernière qui a été découverte, une forme à nickel. Donc, intéressons-nous aux structures. Voici les structures cristallines d'une superoxyde dismutase à fer et une superoxyde dismutase à manganèse qui sont superposées. Donc, celle à manganèse est en orange. Le métal est coordonné par trois histidines et donc un carboxylate ici. Et il porte donc donc une molécule d'eau ou qui peut être déprotonée. Donc on voit que les structures des deux enzymes sont tout à fait similaires. Par contre, on voit aussi une chose qui est tout à fait intéressante, c'est qu'il y a à proximité du site actif une glutamine qui pointe vers le site actif et qui en fait est capable de faire une liaison hydrogène avec donc, la molécule de solvant qui est donc ici. Et en fait, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on voit que ces deux glutamines n'ont pas du tout la même position dans les séquences donc dans les séquences protéiques. Alors, pour illustrer le problème, la problématique, donc, je me suis référé à un schéma qui a été publié par Anne-Frances Miller, dans lequel bon, il y a une échelle de potentiel donc, par rapport à l'électrode à hydrogène. On voit ici donc, le potentiel d'oxydation du superoxyde donc, en peroxyde d'hydrogène avec l'addition d'un électron et de deux protons. Et on voit ici donc, la réduction de l'oxygène donc, à un électron en superoxyde. Donc, sur ce schéma, le fer est toujours représenté par un carré et le manganèse par un cercle. Donc, ce qui est représenté ici, ce sont les potentiels redox des ions hexa-aqua, donc 0,77 et 1,52. Donc, on voit tout de suite que pour que la catalyse se produise, il faut que le potentiel du centre métallique se situe entre les deux potentiels des deux réactions. Donc, on voit que le fer pourrait le faire, mais par contre, pas le manganèse. Alors, ce ne sont pas des lésions hexa-aqua qui interviennent, ce sont les ions qui sont complexés dans les enzymes. Donc, les carrés qui sont ici représentent donc, les formes métalliques de la superoxyde dismutase à fer. Donc, on voit que lorsque le fer aqua est donc complexé par le superoxyde dismutase à fer, en fait, son potentiel est abaissé d'à peu près 700 millivolts. Quand c'est le manganèse qui est complexé, on a aussi un abaissement qui est du même ordre de grandeur vers 600 millivolts. Donc, ça explique que la superoxyde dismutase à fer peut donc catalyser la réaction de dismutation du superoxyde, mais la superoxyde dismutase à fer substituée au manganèse aura du mal, puisqu'elle est trop près de celui-ci. On regarde maintenant ce qui se passe lorsque les ions aqua sont complexés par la superoxyde dismutase à manganèse. Eh bien donc, dans le cas du manganèse, on a le potentiel redox passe de 1,5 volts à 0,3 volts, donc un gain énorme de 1,2 volts, une stabilisation de l'état de la forme oxydée du métal qui est de 1,2 volts. Et on a un effet qui est similaire lorsque c'est le fer qui est complexé en superoxyde dismutase à manganèse, puisque le potentiel passe de 0,8 à moins 0,2, donc un effet qui est de l'ordre du volt. Donc, ce qui ressort de cette analyse, c'est que les potentiels des ions aqua sont donc, la forme oxydée est stabilisée de façon très différente lorsque le métal est complexé par la superoxyde dismutase à fer ou par la superoxyde dismutase à manganèse. Alors, un point que je n'ai pas relevé, mais qui est important, c'est que lorsque le manganèse est complexé par la superoxyde dismutase à manganèse, cette fois-ci, il acquiert la possibilité de dismuter le superoxyde, ce qu'il n'avait pas avant. Alors, comment peut-on expliquer ce genre de choses? Clairement, il y a une différence de stabilisation des formes oxydées par les deux protéines. À quoi cette différence est-elle due? Bien, jusqu'à présent, je vous ai parlé de potentiel redox, de transfert d'électrons sur des métaux. En fait, la situation est un petit peu plus compliquée que cela. Parce qu'en fait, la réaction de réduction qui est mise en jeu associe un transfert de protons. Et ça, c'est une règle absolue donc, dans les réductions biologiques. On ne peut pas accumuler des charges. Donc, en fait, quand on transfère un électron, on va avoir tendance à transférer aussi un proton pour conserver l'électroneutralité. Donc, la réduction qui intervient, en fait, c'est la réduction de l'espèce hydroxométal 3 en aqua métal 2. Et donc, quand on réalise que donc, l'hydroxo qui est lié au métal est en interaction hydrogène avec la glutamine, on comprend tout de suite d'où vient le mécanisme de stabilisation. En fait, c'est la liaison hydrogène donc, avec la glutamine qui en fait contrôle la stabilité de la forme hydroxométal 3 et, in fine, le potentiel redox du couple. Donc voilà comment, dans une vraie réaction redox dans laquelle les métaux sont impliqués, donc la nature a choisi de contrôler le potentiel donc en jouant sur une interaction donc, de deuxième sphère de coordination donc, qui influe énormément sur le potentiel. Donc je voudrais maintenant essayer d'aller plus loin dans l'analyse de ces différences ces similitudes entre le fer et le manganèse. Et cette fois-ci, je vais parler strictement de chimie et de la chimie que nous avons développée dans l'équipe depuis un certain nombre d'années. Et j'ai trié un certain nombre de résultats. Certains sont anciens, d'autres sont très récents. Ils ne sont pas publiés. Alors, cela fait maintenant un certain nombre d'années que, je dirais, nous utilisons ce système ici, qui est un ligand binucléant, donc dans lequel on a un phénol qui va jouer le rôle de pont. Alors ce système est inspiré de la structure d'une protéine à fer, l'hémérythrine, qui est un transporteur d'oxygène et qui a la particularité donc d'avoir un site qui est dissymétrique. En effet, les deux fers sont pontés par un hydroxo et deux carboxylatos, mais le fer de gauche ici est lié à trois histidines et celui de droite à seulement deux, ce qui fait qu'il y a un site de coordination vacant et accessible pour la molécule d'oxygène. Donc c'est cette propriété que nous avons cherché à reproduire en introduisant une branche donc avec trois amines d'un côté et une branche avec seulement deux amines de l'autre. Donc on peut introduire ensuite des carboxylates pour complexer les deux métaux qui sont dans les deux sites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec un minimum de chimie organique, on peut faire varier la nature du groupe R de façon la plus intelligente possible. Alors typiquement, on peut faire deux choses. C'est introduire un groupe R qui va posséder un groupement donneur. Donc on va occuper le site de coordination, mais ça permettra de modéliser certaines propriétés. En particulier, on l'a fait en introduisant phénol et hydroxybenzyle pour modéliser les phosphatases acides pourpres. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de ne pas utiliser de groupe donneur. Et donc à ce moment-là, on a introduit des aromatiques ou des aliphatiques. Donc on maintient la possibilité d'accéder à un des fers du site binucléaire, ou à un des métaux du site binucléaire, et on introduit un substrat potentiel pour faire de la chimie. Et cette approche est intéressante dans l'étude de mécanismes. Oups. Donc j'ai rassemblé ici quatre structures donc, cristallines de complexes que nous avons obtenues avec le ligand qui porte donc, un résidu benzyle ici. Donc il y a un site de coordination accessible qui va être occupé par une molécule de solvant. Cette molécule de solvant peut être une molécule de méthanol ou une molécule d'eau dans les autres cas. Donc si l'on détaille un petit peu la structure donc, qui est ici, donc, on voit que le phénolate donc, ponte les deux métaux. Deux carboxylates viennent complexer ces ponts et donc le métal qui est à gauche est complexé par la bispicolylamine, donc les trois azotes, le métal à droite par une picolylamine et la molécule de solvant. Donc nous avons pu obtenir des structures pour différents complexes, donc complexe du manganèse dans 2 degrés d'oxydation, manganèse 2, manganèse 2, manganèse 3, manganèse 2, complexe du fer, fer 3, fer 2, et plus récemment complexe fer 3, manganèse 2. Donc, les synthèses. Eh bien, tant qu'il s'agit de synthèses de composés homobinucléaires, je dirais que la synthèse est triviale. Bon, il suffit de mélanger donc, les ions et la thermodynamique fait le reste. C'est la forme à valence mixte qui est stable. Si l'on veut obtenir une forme réduite, il suffit de travailler sous argon. Qu'en est-il maintenant de la synthèse des complexes hétérobinucléaires? Eh bien, si l'on procède de la même façon, en mélangeant un sel de fer 3, un sel de manganèse 2, ce que l'on obtient, en fait, ce n'est pas un, mais deux complexes. Parce que les métaux, enfin, le ligand possède deux sites qui sont différents, et les métaux ne sont pas allés chacun dans un site différencié. Donc on a un mélange des deux sites, et qui plus est, cette forme, la forme que nous cherchions, est contaminée par des formes qui sont des formes homobinucléaires. Donc là, on retrouve ce dont Marc parlait, c'est que quand on a deux sites de coordination qui sont voisins, les propriétés intrinsèques du métal, si ce sont deux métaux voisins, elles ont du mal donc, à trier strictement par elles-mêmes donc, le bon site. Alors nous sommes quand même arrivés à obtenir la structure que nous cherchions, mais pour cela, nous avons essayé d'analyser les travaux précédents. Et donc, lorsque l'on a isolé des complexes homobinucléaires à fer, à manganèse, sous la forme à valence mixte, nous avons remarqué qu'en fait, l'ion, donc au degré d'oxydation plus 3, se trouvait toujours dans le site qui comprend les trois amines. Donc nous avons utilisé cette propriété pour mettre au point une synthèse qui est séquentielle. Donc, quand on traite le ligand par un sel de fer 3, on peut passer intermédiairement par un complexe qui est mononucléaire. Et à ce moment-là, quand on rajoute le manganèse, on peut donc mettre le manganèse dans le deuxième site. Donc en séparant la synthèse en deux étapes, on peut arriver à atteindre donc, le bon complexe avec le métal dans son site particulier. Donc ça, c'était très bien et nous étions très satisfaits dans le cas du fer 3 manganèse 2. Mais lorsque nous avons voulu préparer le sel de fer 2, manganèse 2, eh bien, nous n'avions plus la force motrice qui nous permettait de sélectionner le fer 3. Et donc, nous avions toujours été confrontés à des problèmes donc, de mélange des sites de complexation. Alors, nous avons fini par résoudre le problème, mais, disons, en utilisant le complexe de fer 3 manganèse 2, qu'ensuite nous avons pu réduire, et lors de la réduction, il n'y a pas d'échange de sites, ceci nous permet d'obtenir le complexe fer 2 manganèse 2, donc de façon tout à fait convenable. Donc, ceci illustre le problème donc, de la sélection des sites pour des métaux très voisins. Donc, venons-en maintenant aux études de réactivité. Alors, nous avons testé les réactivités en hydrolyse de phosphodiester. Quel que soit le métal, la paire, quels que soient les degrés d'oxydation, tous les complexes sont actifs dans cette réactivité. Donc, c'est exactement comme les enzymes, les phosphatases acides pauvres dont j'ai parlé. Donc, la nature du métal a peu d'influence sur ces réactions d'hydrolyse qui font appel aux propriétés acides. Donc, je n'en parlerai pas. Ce qui est plus intéressant, c'est la comparaison des réactivités des différents sites avec donc, le peroxyde d'hydrogène, substrat donc, modèle pour étudier ceci. Parce qu'en fait, nous avons trois réactivités différentes. Dans le cas du système fer 3 manganèse 2, on a un simple transfert d'électrons. Le système est oxydé en fer 3 manganèse 3. Donc je n'en parlerai pas plus et je détaillerai par contre les deux cas suivants. Dans le cas des six complexes à manganèse, nous avons une dismutation, c'est-à-dire deux molécules de peroxyde d'hydrogène sont oxydées en oxygène moléculaire et réduites en eau. Dans le cas du système fer 3 fer 2, on a un petit peu de dismutation et ensuite une oxygénation. Alors je dis un petit peu de dismutation pour la raison suivante, c'est que la dismutation est beaucoup moins efficace que dans le cas des complexes à manganèse et elle s'arrête assez rapidement parce que le complexe est dégradé et on va voir qu'il est dégradé par oxygénation. Donc il est clair que la dismutation n'est pas l'activité majeure de ces complexes à fer. Et par contre c'est une oxygénation, c'est donc le transfert d'un oxygène donc, sur un substrat. Donc, les activités catalases des composés à manganèse. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il y avait certains organismes qui ne fonctionnaient pas avec du fer. Bien, c'est le cas des lactobacilles. En fait, bon, on sait que toutes les catalases dans les autres systèmes sont des enzymes qui sont des hémoprotéines qui fonctionnent avec du fer. Dans le cas des lactobacilles, ce sont des enzymes à manganèse. Donc, qui ont une structure qui est assez voisine des sites que Marc a montré donc, pour les méthanemonoxygénases et ribonucléotides réductases. Et elles fonctionnent donc avec deux manganèses. Donc, nous avons testé les activités catalases de nos composés à manganèse. Donc, dans l'état bismanganèse 2, dans l'état manganèse 3, manganèse 2, et avec des variations dans la nature des ponts. Ce qui est représenté sur cette figure, c'est le volume d'oxygène dégagé en fonction du temps. Et on voit qu'il est extrêmement dépendant de la nature du complexe. Le composé le plus actif est le composé manganèse 3, manganèse 2. Et ensuite, donc, quand on introduit des groupes carboxylates moins donneurs, on a un abaissement de l'activité, donc, comme c'est indiqué ici. Donc, je ne parlerai pas des mesures thermodynamiques et des mesures donc cinétiques. Par contre, je voudrais m'intéresser au mécanisme de la réaction que nous avons étudié en combinant un certain nombre de méthodes spectroscopiques. Dans le cas du manganèse, la RPE est une méthode qui s'impose. Nous avons utilisé aussi la spectrométrie de masse. Donc, voici quelques spectres RPE qui sont enregistrés en cours de catalyse. Alors, le spectre du départ, donc c'est le spectre du composé, donc bismanganèse 2, et il a vraiment la forme caractéristique la signature de ces systèmes bismanganèse 2. Cinq minutes après l'addition de peroxyde d'hydrogène, on a un spectre ici qui comprend 16 lignes. Spectre compliqué, mais spectre extrêmement distinctif, et qui est la signature spectroscopique d'une entité manganèse 3, manganèse 4, bisoxo. Au fur et à mesure que la réaction progresse, l'intensité de ce spectre diminue parce qu'arrive une autre espèce qui croît jusqu'ici. Et cette espèce a un spectre qui est très large, qui n'est pas résolu. Et ça, c'est assez caractéristique des espèces donc, dans lesquelles on a un manganèse 2 et un manganèse 3 en interaction. Alors, donc, ceci nous permet d'identifier les degrés d'oxydation des espèces, mais ne nous dit pas ce qu'elles sont. Donc nous avons étudié cette question en utilisant la spectrométrie de masse, donc par ionisation, par électronébulisation. Donc voici un spectre donc, du produit de départ, et on a le pic de masse attendu pour le monocation qui est ici, donc manganèse 2, bismanganèse 2 avec le ligand et deux ponts acétates. En début de catalyse, on voit apparaître donc, un autre pic à 729 ici, qui correspond, donc la masse correspond à une forme, donc manganèse 3, manganèse 4, bisoxo, avec un seul pont acétate. Et lorsque la catalyse continue, on voit un autre pic apparaître, donc à 713, qui correspond donc à la forme manganèse 2, manganèse 3, ligand, un pont oxo et un pont acétato. Donc les deux techniques sont parfaitement convergentes dans leur analyse. Donc, on peut être assez confiant donc, dans les résultats que l'on a obtenus. Alors, nous étions intéressés à caractériser beaucoup plus l'espèce manganèse 3, manganèse 4. Alors, il faut savoir que les études de systèmes qui catalysent la dismutation du peroxyde d'hydrogène sont assez difficiles en termes de mécanisme pour la raison suivante, mais qui est intrinsèque à toute catalyse de dismutation, c'est que la forme oxydée est formée par un réactif et elle réagit avec ce même réactif. Donc, il est très difficile de piéger ces espèces. Donc nous avons utilisé une astuce, c'est qu'au lieu d'utiliser le peroxyde d'hydrogène, nous avons utilisé le tertiobutyl hydroperoxyde, donc qui permet de générer l'espèce mais ne réagit pas avec elle, et donc on peut l'accumuler pendant un temps suffisant pour faire des études spectroscopiques. Alors, nous avons procédé à beaucoup d'analyses spectroscopiques, mais j'en ai retenu une seule qui utilise les spectroscopies d'absorption X, et en particulier donc l'étude de la structure fine ici. Donc ce qui est présenté ici, ce sont la transformée de Fourier du signal EXAFS en fonction donc de la distribution radiale. Il y a trois données correspondant à trois complexes, le complexe que nous étudions nous-mêmes et par comparaison deux produits de référence qui sont connus pour être des systèmes manganèse 3, manganèse 4 dont la structure a été résolue par diffraction des rayons X, dont un qui possède donc simplement deux ponts oxo et un qui possède, en plus du pont oxo, un pont acétato. Donc, les lignes pointillées noires verticales ici représentent donc le vecteur donc manganèse oxo, donc du système pontant, et l'interaction manganèse-manganèse. Et comme vous pouvez voir, dans notre complexe, on est parfaitement cohérent avec les structures des composés modèles. Donc, et en particulier, la distance manganèse-manganèse que nous mesurons, 2,63 angstrom, est tout à fait du même ordre que celle donc, pour ce composé qui possède un pont acétate en plus des ponts oxo. Donc, à partir de ces données et à partir d'autres méthodes spectroscopiques, nous avons pu proposer une structure dans laquelle, en fait, on voit que les deux ions manganèse 4 et manganèse 3 sont pontés par deux oxo et un pont acétate, et que le phénolate, qui était pontant dans le système initial, est devenu terminal donc sur le manganèse 3, donc dans ce cas. Donc, à partir de ces données, on a pu proposer un mécanisme. Donc, ce mécanisme est décrit ici. Donc, lorsque l'on démarre à partir du système bismanganèse 2, on a une réaction avec une première molécule de peroxyde d'hydrogène qui conduit à une oxydation pour former le manganèse 2, manganèse 3 hydroxo, qui réagit lui-même avec donc, une deuxième molécule de peroxyde d'hydrogène pour donner donc, l'espèce que l'on a vue dans le cycle catalytique, donc manganèse 4, manganèse 3, avec deux oxo et un acétato. Donc cette espèce est capable d'oxyder le peroxyde d'hydrogène pour libérer de l'oxygène, et donc elle devient réduite dans la forme manganèse 2, manganèse 3, oxo, acétato, qui elle est capable de réagir avec le peroxyde d'hydrogène, donc pour le réduire donc, en molécules d'eau et se transformer donc, en système manganèse 3, manganèse 4. Donc la signature de cette espèce est donc ici. Donc la catalyse se produit par ce qu'on appelle un mécanisme ping-pong entre les deux donc, formes redox qui sont ici. Alors si l'on essaye de comparer nos résultats avec ceux, avec les données qui existaient sur les catalases à manganèse, alors on est obligé d'être modeste parce que en fait, les cinétiques que nous obtenons pour ces systèmes sont quand même trois ordres de grandeur plus faibles que les cinétiques enzymatiques, ce qui nous permet d'étudier les mécanismes. Deuxième différence que nous avons, c'est que les catalases à manganèse fonctionnent avec entre deux degrés d'oxydation qui sont différents de ceux-ci, c'est l'état bismanganèse 2 et l'état bismanganèse 3. Alors ceci n'est pas, à mon avis, d'une grande importance pour l'activité catalytique, parce que c'est une propriété du manganèse d'avoir plusieurs degrés d'oxydation accessibles, et en fonction de l'environnement, il peut donc faire varier les degrés d'oxydation de la paire pour utiliser les bons potentiels. Par contre, je pense que le problème auquel nous sommes confrontés dans cette étude en termes d'activité trop faible, ce n'est pas un problème redox, c'est un problème de protonation. En effet, donc vous voyez que ces réactions inclut des échanges de protons, comme on l'a vu dans le cas des superoxydes mutases. Et il est certain qu'en travaillant en milieu organique, donc dans l'acétonitrile, on ne gère pas les transferts de protons, ce que l'enzyme sait très bien faire. Et donc et cette idée que nous avons a été confortée par l'étude de complexes différents, de structures différentes de ceux-ci, dans lesquelles nous avons introduit des carboxylates terminaux. Et ces carboxylates terminaux peuvent avoir le rôle de protons, le rôle de relais de protons, et donc ça permet d'augmenter de façon notable les cinétiques catalytiques. Donc, cette activité de dismutation du peroxyde d'hydrogène, c'est une activité qui est très caractéristique des systèmes à deux manganèses. Donc, venons-en maintenant au système à fer que nous avons étudié et qui, je l'ai dit, donc, en plus de cette une faible activité de dismutation, possède une activité oxygénase. Alors, lorsqu'on parle d'activité monooxygénase avec des systèmes non-héminiques, binucléaires de surcroît, on ne peut pas éviter la méthane monooxygénase qui est le paradigme de ces enzymes. Donc, son cycle catalytique est représenté ici d'après une revue de Steve Lippard. Et je vais essayer de l'illustrer pour simplifier les transformations qui sont présentes dans ce système. Alors, le système commence dans un état oxydé, donc qui est représenté ici, avec les deux fer 3 qui sont pontés par deux ions hydroxo. Et il y a une activation réductrice. Donc, en fait, les deux fer 3 sont réduits à deux électrons donc pour donner un système bis-fer 2 donc, qui est ici. Et ce système est capable de réagir avec l'oxygène moléculaire pour aboutir à une forme donc peroxo, bisfer 3, dans laquelle le peroxo est lié de façon, ce qu'on appelle side-on, en anglais, aux deux métaux. Et c'est le réarrangement de cette espèce, donc en une espèce bisfer 4, bisoxo, donc à très haut degré d'oxydation, qui va et donc générer cette espèce active. Donc cette espèce active est capable de faire l'abstraction d'un hydrogène du méthane, qui, après recombinaison, va donner donc, la molécule de méthanol et le système va évoluer vers sa forme oxydée normale bisfer 3. Alors, on sait depuis très longtemps que ces processus d'activation réductrice de l'oxygène peuvent être court-circuités en utilisant des espèces réduites. Et donc, en particulier, donc, si l'on traite la forme oxydée par le peroxyde d'hydrogène, on peut aboutir au complexe peroxo qui va ensuite donc se transformer dans l'espèce active. On peut aussi aller directement de l'espèce donc oxydée jusqu'à l'espèce active en utilisant des donneurs d'oxygène, en particulier les peracides ou des iodosylarènes. Donc c'est cette chimie donc de peroxyde, de peroxide shunt en anglais, que nous avons utilisée avec nos systèmes. Alors donc j'ai représenté les complexes du fer donc sur ce diagramme, donc c'est complexe valence mixte fer-3-fer-2. Le ligand ici est un ligand benzyle. Dans l'acétonitrile, la molécule d'eau qui était présente dans la structure a été remplacée par une molécule d'acétonitrile, mais donc cette molécule est échangeable et on va pouvoir faire de la chimie au niveau du fer 2. Alors cette chimie, quelle est-elle? Eh bien donc on se concentre sur la réaction avec des oxydants. Donc on va étudier plus précisément la réaction avec le peroxyde d'hydrogène, donc ici, mais on observe donc la même réaction avec l'acide métachloroperbenzoïque et avec un iodosylarène. Cette réaction, quelle est-elle? Eh bien, elle consiste en l'insertion d'un atome d'oxygène dans la position orthobenzylique qui est ici pour donner un phénol qui devient coordonné au fer, donc sous forme d'un phénolate terminal. Donc, quel que soit le donneur d'oxygène, on observe toujours la même réactivité. Par contre, vous voyez que les cinétiques sont extrêmement différentes et donc cela signifie que l'on ne passe pas par les mêmes mécanismes. Donc, on va étudier maintenant le mécanisme dans le cas de la réaction avec le peroxyde d'hydrogène. Donc, on va utiliser pour suivre cette réaction la technique de spectrométrie de masse donc par électronébulisation. Et donc le complexe de départ apparaît sous un pic à 860 g par mol lorsque la réaction est conduite sous air ou sous argon en présence de peroxyde d'hydrogène, donc je dirais normal entre guillemets. On observe la formation du produit hydroxylé qui a une masse donc à 875 correspondant à l'addition d'un oxygène et l'arrachement d'un hydrogène, donc plus 15. Le spectre de masse que l'on observe dans ces conditions est représenté ici avec un motif isotopique particulier. Alors nous avons fait une expérience qui est intéressante parce qu'elle donne beaucoup d'informations en une seule fois. Nous avons répété la réaction sous air, mais en utilisant un peroxyde d'hydrogène qui est marqué à quasiment 100% à l'oxygène 18. Et le spectre de masse que l'on obtient est représenté ici. Donc clairement, on a deux formes oxygénées du produit, une qui correspond à l'introduction d'un oxygène 16, et l'autre qui correspond à l'introduction d'un oxygène 18. Donc, en fait, le produit formé, donc par hydroxylation, a utilisé des oxygènes de deux sources différentes. La première, donc, c'est l'oxygène 18 du peroxyde d'hydrogène, et la deuxième, c'est l'oxygène 16 de l'air. Donc, cette expérience montre que l'on a deux mécanismes concurrentiels qui aboutissent à la formation du même produit. Alors, on a voulu savoir un petit peu mieux comment ça marchait. Donc, on a essayé de suivre cette réaction à des temps très courts, toujours par spectrométrie de masse, donc en faisant quasiment la réaction dans le spectromètre ou vraiment à l'entrée. Donc, quand on enregistre un spectre de masse à des temps très courts, on observe donc des pics ici à 438,5. Alors, il s'agit d'un dication, donc contrairement aux espèces dont je vous ai montré qui correspondaient à des monocations. Donc, et cette masse-là correspond parfaitement à la forme donc bisphère 3 avec un hydroxo. Mais juste après, il y a un pic ici qui est tout à fait intéressant. Alors, quand je dis un pic, c'est un peu optimiste parce qu'en fait, il y a un ensemble de massifs dans lequel on a deux pics majoritaires, donc c'est au moins deux produits. Mais il y en a un qui est particulièrement intéressant, donc à 446,5, parce que en fait, cela fait 8 de masse de plus que l'hydroxo. Et comme on est dans des dications, ça veut dire qu'on est à une masse de 16 supplémentaires, et donc cela suggère que l'on pourrait avoir un hydroperoxyde. Donc nous avons voulu confirmer cette hypothèse, donc, et pour cela nous avons utilisé la spectrométrie de masse avec du marquage isotopique, dont je représente le spectre que je vous ai déjà montré ici, et nous avons refait la réaction avec un peroxyde d'hydrogène marqué à l'oxygène 18, et ce que nous avons obtenu, c'est la chose suivante, c'est que tout le massif a migré, donc de plus de deux unités de masse ici, ce qui correspond en fait au marquage donc des deux atomes d'oxygène, dont le pic à 446 s'est déplacé à 448. Les deux oxygènes sont marqués, donc ça correspond bien à un peroxyde. Alors un hydroperoxyde, ben pour ça il faudrait être sûr qu'il y a donc un hydrogène qui est échangeable. Donc c'est une question à laquelle nous nous sommes attachés. Et donc nous avons refait la réaction initiale sans oxygène marqué, mais en présence de D2O. Et ce que l'on voit, c'est que le pic à 446,5 se déplace à 447, donc 0,5 pour un dication, donc une unité de masse supplémentaire pour la molécule, et ça correspond bien au remplacement d'un hydrogène par un deutérium. Donc, un intermédiaire clé dans cette réaction d'oxygénation, c'est le composé bisphère 3 hydroperoxo. Alors, pour résumer très brièvement d'autres études qui ont été un petit peu plus longues, donc je présenterai le mécanisme global auquel nous sommes parvenus, même s'il y a encore des zones d'ombre. Donc, la réaction d'une molécule de peroxyde d'hydrogène avec le système fer-3-fer-2 produit un fer-3-fer-3 hydroxo, qui par une réaction avec une deuxième molécule donc, produit l'hydroperoxo, donc fer-3-fer-3. Et donc celui-ci peut réagir de deux façons. D'une part, l'insertion directe donc, d'un atome d'oxygène qui va conserver le marquage, et d'autre part, la formation d'un radical, dont la nature pour l'instant nous échappe, qui va être piégé par l'oxygène pour aboutir à la même donc, espèce finale. Ce mécanisme est très différent du mécanisme que l'on observe avec les autres donneurs d'oxygène, donc l'iodosylarène et le peracide, puisque dans ce cas-là, on passe par un premier intermédiaire qui est un bisphère 3 muoxo, qui réagit avec une deuxième molécule de donneur pour passer par une forme qui est donc un bisoxo bisphère 4, et c'est cette espèce qui réalise l'introduction de l'oxygène dans le substrat, que ce substrat soit un aryl ou un alkyl, et ceci se fait donc sans intervention de l'oxygène moléculaire. C'est une réaction strictement catalysée par le méthane. Alors, quand on compare ces données à celles, aux choses publiées dans la littérature, et il y a une littérature abondante dans ce domaine, on s'aperçoit en fait que la voie peroxydique que nous observons ici est en fait quelque chose d'assez classique pour ce qui est obtenu avec des composés mononucléaires. Donc, ceci suppose que l'on a une activation de type mononucléaire. Par contre, la voie avec les donneurs d'oxygène est, elle, tout à fait classique, donc des activations dinucléaires. Alors, on peut essayer de résumer donc, maintenant les réactivités donc, que nous avons observées avec ces complexes manganèse et ces complexes du fer et essayer d'en tirer les leçons. Alors, bon, je le répète, dans le cas de l'hydrolyse, il n'y a aucun souci, tous les complexes donc, catalysent cette réaction. Par contre, c'est dans le cas des réactions redox que les choses sont très différentes. Donc, transfert d'électrons, tout simple, je dirais, dans le cas du fer manganèse, dismutation, strictement, dans le cas du bismanganèse, et par contre, donc, une certaine dualité pour le cas du fer, mais avec une préférence très forte pour l'oxygénation. Alors, je dirais que les deux choses sont dismutation et oxygénation, c'est quand même assez différent, puisque dismutation, il suffit d'avoir les bons potentiels et le système va tourner. Dans le cas de l'oxygénation, il y a de la chimie supplémentaire qui se fait et c'est quelque chose qui est plus distinctif. Et c'est probablement ça pour ça que c'est associé plus au fer que donc au manganèse ou à d'autres métaux. Donc en fait, j'ai anticipé sur la rationalisation que je voulais donc dire. Donc en fait, on retrouve les choses que l'on avait vues précédemment donc, pour les enzymes et qu'on pouvait déjà subodorer en regardant les propriétés des métaux. Et là, on arrive à préciser un petit peu les choses. Donc, et j'insiste sur le problème de la spécificité du fer. Donc si dans certains cas, le manganèse peut substituer le fer pour certaines fonctions, on peut penser que ce ne sera pas le cas pour la totalité. Donc je voudrais maintenant. Non, je ne suis pas passé. Voilà. Je voudrais maintenant passer à la quatrième partie, dans laquelle on va voir des certaines similitudes avec ce que Marc a présenté tout à l'heure. Et le parti que j'ai pris est de considérer trois exemples sur deux protéines. Donc, et puis d'essayer de comprendre pourquoi, dans la littérature, il y a eu des débats qui ont parfois été un petit peu durs et des erreurs. Et d'essayer de comprendre pourquoi ces erreurs ont eu lieu. Alors, le premier cas, c'est le cas des arylamines oxygénases. Donc, ce sont des enzymes qui sont assez intéressantes, puisqu'elles ont la capacité, sur un seul site bimétallique, de catalyser la transformation d'une aniline en groupe aryl nitro. Donc, à part trois oxydations à deux électrons successives, donc une oxygénation, une déshydrogénation et une oxygénation. Le mécanisme a été établi au moins au niveau organique, par des marquages isotopiques. Alors, la saga de ces enzymes commence en 2003 par l'identification du gène par un groupe allemand. En 2004, ils ont identifié la fonction de l'enzyme. Mais alors, ce sont des transformations intéressantes du point de vue de la chimie bio-organique. Et donc, il y a un groupe américain qui, ayant vu ça, s'est mis dessus. Et c'est le groupe de Zhao à Urbana. Et donc, ils ont publié que l'enzyme était une oxygénase à faire deux. Alors, il y avait des éléments, des alignements de séquences, mais bon, il faut les prendre peut-être avec des pincettes, les alignements de séquences. Et ils ont apporté une indication, c'est ce spectre RPE. Alors, ce spectre RPE, pour les connaisseurs, je dirais, c'est un spectre qui est extrêmement classique d'un système à valence mixte que l'on rencontre dans les protéines à fer. On avait le même donc, dans une collaboration qu'on a faite avec Marc dans ce enzyme MIAE. Donc, c'est quelque chose qui est une signature spectroscopique. Alors, Marty Bollinger, plus tard, a proposé, toujours d'après les alignements de séquence, que finalement, bon, pourquoi OREF ne serait pas une oxygénase qui associerait un fer et un manganèse ? En fait, bon, c'était une proposition qui n'a pas eu de suite. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'en 2007, la même année, donc, le groupe allemand a publié que OREF était une oxygénase à manganèse 2. Alors, quelles preuves a-t-il apporté ? Premièrement, à droite, un spectre RPE, dans lequel on voit clairement qu'il y a du manganèse, c'est le couplage donc, du spin électronique avec le spin nucléaire du manganèse, c'est très classique, sauf que c'est un mononucléaire, donc ce n'est pas forcément assez probant. Par contre, ils ont aussi publié la structure de l'enzyme, donc, dans lequel on voit deux ions manganèse pontés par deux carboxylates, donc deux ions manganèse au degré d'oxydation 2, et puis probablement une molécule d'eau ici, et donc il y avait la structure. Mais la saga n'était pas terminée, parce que l'année suivante, le groupe américain a publié que OREF est une oxygénase à fer. De nouveau. Alors, quand il a amené comme élément, alors, le spectre RPE était connu, ils ont amené comme élément deux choses. Première chose, la structure. Mais là aussi, on voit deux fers pontés par un ligand oxo et un ligand carboxylate. Est-ce que c'est suffisant ? Non. Mais ils ont apporté une chose très intéressante, ce sont les études d'activité. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi donc, à cultiver l'enzyme donc, dans des conditions différentes en faisant varier le rapport fer-manganèse. Et ils ont analysé le contenu pour les deux métaux dans la protéine et ils ont relié ça à l'activité. Donc, et quand on regarde ce tableau, il est évident que l'activité de l'enzyme est liée à la présence de fer. Donc, l'activité résiduelle de manganèse, en fait, elle correspond à une présence de fer résiduel. Donc, c'est clair, d'après ces expériences, que les arylamines oxygénases, OREF, sont des enzymes à fer. Alors maintenant, pourquoi les Allemands se sont-ils trompés ? Alors, une proposition que j'avance, c'est celle-ci, c'est que bon, quand on regarde comment ils ont travaillé, eh bien, ils ont fait leur culture en utilisant des concentrations en citrate ferrique et en manganèse qui sont énormes. On peut cultiver, enfin, faire des cultures équivalentes avec 30 micromolaires en fer, et ça marche très bien. Donc, en fait, ce que je propose, c'est qu'en fait, en utilisant des conditions qui sont des conditions extrêmes pour les cellules, ils ont perturbé complètement l'homéostasie métallique, ils ont aussi perturbé donc, les systèmes redox, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu introduire du fer, et que, ben, comme il y avait du manganèse 2, et que le site n'est finalement pas trop défavorable pour le manganèse, c'est le manganèse qui est entré. Donc ceci est intéressant parce que ça montre que en cas de stress, un système peut introduire un métal ou à la place d'un autre. Alors je viens parler des ribonucléotides réductases. Alors je vais aller assez vite dans ce contexte-là puisque Marc en a parlé beaucoup. Donc je vais me focaliser sur la classe 1 comme il l'a faite puisque c'est là que se trouvent les problématiques. Donc là j'ai une illustration du transfert d'électrons. Ou du transfert de trous d'ailleurs, puisque c'est un équivalent oxydant qui est transféré donc, depuis donc, la cystéine active jusqu'au centre métallique ou à la tyrosine. Les structures, comme Marc l'a montré, sont extrêmement similaires, donc avec quand même, je réinsiste là-dessus, donc, le manganèse qui est donc, proche. Enfin, qui est dans le site proche de l'endroit où se trouve la tyrosine d'habitude, et donc le glutamate n'y est probablement pas pour rien. Le mécanisme d'activation, donc, Marc l'a présenté, donc je ne vais pas en parler, et je voudrais arriver, donc, là aussi, les espèces actives, donc bisfer 3 tyrosinyl, bismanganèse 3 tyrosinyl et manganèse 4 fer 3. Ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais essayer de comprendre pourquoi Donc, il a pu y avoir des erreurs, et donc, essayer de comprendre ce qu'on peut en tirer. Alors, j'ai fait un petit historique donc, de la chose, mais donc, la RNR1A, c'était une enzyme à faire. Et en fait, la saga, si je puis dire encore, utiliser ce terme, donc, a commencé dans les années 80 à la proposition de Georg Holling, un biochimiste allemand, que certaines RNR fonctionnaient à manganèse. Et le groupe suédois l'a un petit peu démonté, si je puis utiliser cette expression, et probablement à tort, puisque en fait, c'est Johan Stubbe qui a donc résolu la question, comme l'a dit Marc, donc, en notant qu'il y avait une flavodoxine NRDI qui était associée à ces RNR au lieu de la ferredoxine YFAE pour les celles de classe 1. Et donc ça a permis en 2010 à Stubbe de démontrer que la forme manganèse 2 est active in vitro dans le complexe RNR-flavodoxine. Et ceci a été suivi par une démonstration in cellulo par Stubbe et aussi une confirmation par Jim Imlay. Donc, qui ont véritablement montré que dans la cellule, c'est bien, on a des conditions dans lesquelles c'est cette forme qui est active. Donc, ça va quand même un cran plus loin que les manipes in vitro. Et donc, bon, mais ça, c'est, je représente ici le nœud du problème, si je puis dire. Donc, c'est les mécanismes d'activation donc, différents pour les RNR des deux classes. Alors, comme l'a dit Marc, la question n'est pas tranchée. Ce qui est tranché, c'est que la flavodoxine va générer une espèce réduite de l'oxygène. Ce qui n'est pas tranché, c'est quelle est la nature de cette espèce active. Alors, personnellement, j'ai une préférence, et je vais vous la donner, mais c'est une préférence strictement intellectuelle. Je dirais, en fait, l'espèce qui est active, c'est une espèce manganèse 3, manganèse 4, qui est une espèce qui est à 3 équivalents oxydants au-dessus de l'espèce bismanganèse 2. Si on passe par une activité par donc le peroxyde d'hydrogène, il va falloir 2 molécules d'hydroperoxyde d'hydrogène, et ensuite, il va falloir faire une réduction. Avec le superoxyde, on peut très bien aller directement à cette espèce. La force motrice, c'est la formation de l'eau, et qui se situe, donc qui correspond à une réduction à 3 électrons du superoxyde. Donc je penche pour le superoxyde, parce qu'il suffirait d'une seule molécule donc, d'oxygène pour activer le système, alors qu'il en faudrait 2 pour l'activer dans l'autre voie qui fait appel au peroxyde d'hydrogène. Quoi qu'il en soit, le point important, c'est le rôle donc, de la flavodoxine, et donc cela montre une chose, c'est que si l'on, dans des systèmes aussi complexes, si l'on considère uniquement la protéine et si on ne regarde pas à qui elle est associée dans l'opéron, on peut faire des erreurs qui sont importantes. Alors deuxième chose, évidemment, je vais parler obligatoirement des ribonucléotides réductases de classe 1C, parce que d'abord elles sont intéressantes, et donc Marc a montré donc, l'intérêt de cette courbe d'activité qui montre bien que c'est à un équivalent de fer et de manganèse que le système fonctionne. Au niveau de la caractérisation de l'espèce active, donc là je vais quand même insister sur l'apport des spectroscopies, parce que c'est un cas d'école qui est décrit dans cette publication Science en 2007. Donc, les auteurs ont donc pu stabiliser l'espèce active, la mettre en évidence, et ils l'ont caractérisée en jouant avec 2 spectroscopies, la spectroscopie Mössbauer, qui est donc sensible au fer et qui donne des informations sur le degré d'oxydation du fer, et donc c'est clairement un fer au degré d'oxydation 3, et puis la spectroscopie RPE, donc, qui permet de montrer que c'est un ion manganèse 4, donc, que c'est un ion qui se trouve au degré d'oxydation 4. Ils ont aussi joué avec des réactions redox pour montrer les différents changements d'état redox dans l'enzyme. Donc c'est une démonstration qui est d'une très grande qualité. Alors, qu'est-ce que ces résultats donc, amènent comme information ou comme question ? Alors, comme information, je dirais que... En fait, le problème de la ribonucléotide réductase, de son activation, enfin pour la réaction, je ne dis pas l'activation du centre métallique, c'est de générer, je dirais, un trou, de générer un équivalent d'oxydation à un potentiel suffisant pour oxyder donc, la cystéine active. Et donc, que ce soit fait par une tyrosine, un radical tyrosinyl, ou que ce soit fait par un système ferro-manganèse 4, à la limite, peu importe. C'est juste un équivalent à oxydation. Donc, on n'est pas dans de la catalyse vraiment très spécifique. Donc ceci. Alors, apparemment, effectivement, le glutamate 89 a une importance très nette là-dedans. Alors, deuxième, par contre, la question que cela pose, effectivement, c'est le problème de la maturation d'un site hétérobinucléaire. Les métaux sont introduits au degré d'oxydation 2, ils sont très voisins, le fer et le manganèse, au degré d'oxydation 2, et ils ne sont pas non plus très spécifiques. Donc, comment ceci est fait? Bon, c'est une question qui est pendante. Alors, je peux faire une parallèle avec ce que j'ai montré au tout début, donc dans le cas des phosphatases acides pourpres, où là, il n'y avait aucun problème pour positionner le métal parce qu'on avait un tyrosinate qui stabilisait le fer au degré d'oxydation 3 dans ce site. Donc, il est hors de question qu'un manganèse 2 aille dans un site comme ça. Il y a une trop forte différence d'affinité. Par contre, lorsqu'on n'a pas cette sélection par le tyrosinate, eh bien, on peut tout avoir. Et la question de la localisation, d'abord, est, à mon avis, pas totalement réglée, même s'il y a des progrès. Et donc, c'est vraiment une question pendante de savoir comment on peut maturer un site hétérobinucléaire. Alors, c'est le cas pour cette enzyme, ce n'est pas la seule enzyme, puisque donc, récemment, Ekbom a mis en évidence une oxydase dans laquelle qui fonctionne avec un site manganèse et un site fer. Et la position des deux est tout à fait cruciale. D'ailleurs, il y en a une indication sur la structure même, puisque du côté du fer, on a une particularité, c'est un pontage entre une valine et une tyrosine, qui est quelque chose d'assez exceptionnel, et qui est une chimie à deux électrons, catalysée typiquement par les systèmes à fer. Alors, il est temps de conclure. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de montrer substitution fer-manganèse comment. Donc, en fonction des propriétés, c'est plus ou moins facile. Donc, enzyme hydrolytique, très facile. Enzyme redox simple, où il faut d'ajuster un potentiel, ça peut se faire. Catalyse redox, très difficile. Ça, je ne suis pas certain qu'on pourra remplacer le fer par le manganèse dans les métal monoxygénases. D'ailleurs, la nature a choisi le cuivre, mais ce n'est pas pour rien. Donc, substitution fer-manganèse, pourquoi? Alors là, il y a des choses intéressantes, donc Marc l'a mentionné. Dans les RNR, ce sont très souvent des bactéries pathogènes. Et donc, l'ARNR à manganèse pourrait être une réponse à un stress oxydant. D'ailleurs, je pourrais faire un commentaire là-dessus sur une question que tu n'as pas évoquée. L'ARNR à fer manganèse, on a proposé que c'était un stress, qu'elle pouvait être une réponse à un stress nitrosatif. Bon, en fait, on sait que le radical tyrosinyl réagit avec NO. Donc Marc n'y est pas pour rien. Et par contre, le site fer-3 manganèse 4 n'est pas réactif avec NO. Donc ce serait une façon d'avoir une espèce active qui n'est pas sensible à toutes ces molécules que génèrent les macrophages en particulier. Alors, dans le cas de l'ARNR de manganèse 2, ce qui est proposé, c'est qu'elle pourrait être induite par un stress oxydant. Alors, et plus que par une carence en fer. Et donc ça, c'est intéressant parce que les éléments qui permettent de dire ça, c'est que en cas de carence en fer, on ne génère pas l'ARNR à manganèse de façon particulière. Par contre, en cas de stress oxydant, il y a un transporteur à manganèse, MNTR, qui est surexprimé de façon notable. Et donc, pourquoi aurait-on besoin d'un transporteur à manganèse, si ce n'est parce qu'il y a une enzyme clé qui a besoin de manganèse? Donc, c'est probablement une piste. Alors, tout ceci est très compliqué au niveau cellulaire, et en particulier parce que se trouve mélangé à des processus qui ont été mis en évidence récemment et qui sont ce qu'on appelle les économies de fer, iron sparing, et parmi lesquelles on a des choses qu'on a vues. Donc, quand le fer devient limitant, il faut l'économiser et éventuellement le recycler. Et donc, il y a des enzymes qui peuvent être substituées, la ferredoxine en flavodoxine et la superoxydimétase à fer en superoxyde à manganèse. Et le fer peut être récupéré à partir de la ferredoxine pour être utilisé ailleurs. Mais évidemment, beaucoup de ces transformations sont dues à des processus de l'évolution. Si je peux faire une boutade, une évolution, c'est quand même un stress un peu plus long, quoi. Mais c'est évidemment la pression qui est importante. Alors, les questions sans réponse, il faut affiner ces questions pour lesquelles j'ai esquissé un certain nombre de réponses. Et puis, c'est vraiment la question de la maturation des sites. Dans le cas du cuivre, les choses sont très... La compréhension du trafic du cuivre dans la cellule est tout à fait bien avancée, la compréhension est bien avancée. Dans le cas du fer ou du manganèse, ça l'est beaucoup moins. Et bon, je pense que les exposés que vous avez entendus vont probablement contribuer à vous convaincre qu'il doit y avoir des chaperones à fer. Donc voilà, mais elles restent à trouver. Donc c'est là-dessus que je voudrais terminer, mais donc je voudrais remercier Marc encore pour l'invitation et vous pour votre attention.